Je vous invite ce soir à ouvrir encore une fois nos Bibles dans le livre des Juges, au chapitre 16, Juges 16, versets 15 à 31. Et nous sommes là dans la dernière partie du récit de la vie et du ministère de Samson. Juges 16, à partir du verset 15, et nous retrouvons Samson chez Delila. Et Delila lui dit: « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Et comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Et Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Elle dit alors: « Samson, les Philistins sont sur toi !» Et il se réveilla de son sommeil et dit: « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai !» Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient: « Notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi !» Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant: « Notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Et dans la joie de leur cœur, ils dirent: « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse !» Et ils firent sortir Samson de la prison et de joie devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » Et la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Samson dit: « Que je meure avec les Philistins !» Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Et ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Et ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Ectaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Voilà, cette lecture nous conduit classiquement à traiter de la chute d'un serviteur de Dieu. Et le plan se déroule presque d'une manière logique et naturelle. Et il convient alors d'aborder les raisons de la chute, mais aussi les conséquences d'une telle chute, pour passer ensuite à cette grâce du relèvement que Dieu accorde à ceux qui savent se tourner vers lui encore une fois, et puis en conclusion de tirer des leçons universelles, des leçons qui s'étendent jusqu'à nous. Mais quand on parle d'un tel sujet, il est important de ne pas se précipiter à appliquer des grilles de lecture, toutes préparées, spécialement dans le cas de Samson. Parce qu'alors grande est la tentation de vouloir lire cette histoire à travers d'autres histoires de la parole de Dieu. Et il semblerait, par exemple, qu'il pourrait y avoir une concordance entre l'histoire de Samson et la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas ? ce jeune homme qui a brûlé son héritage avec les prostituées, qui un jour s'est retrouvé là au plus profond de la misère, criant son désespoir et demandant pardon d'avoir péché contre le ciel et son Père. Mais attention au raccourci. Parce que lorsqu'on utilise de telles grilles de lecture et lorsqu'on lit la parole de Dieu avec des éléments tout préformatés, parfois on ne lit plus le texte biblique. C'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cette histoire de Samson. Parce qu'on ne lit plus tellement la Bible telle qu'elle est, mais on la lit telle qu'on nous a dit de la lire. Et puis, à partir de là, on n'entend plus les choses qu'elle veut nous dire. Parce que la Bible est vivante, n'est-ce pas ? La parole de Dieu se fait entendre. Et Dieu a encore des choses à nous dire. Mais si nous disons les choses avant que Dieu les dise, comment le Seigneur peut-il nous parler ? Et le problème aussi, encore plus grave, notamment dans une histoire comme Samson, c'est qu'on force les choses pour qu'elles s'adaptent à ce que nous voulons qu'elles disent. Et alors, nous trouvons des mots, des paroles, et quitte à leur faire dire tout à fait ce qu'elles ne disent pas, on va les utiliser comme argument pour dire « Ah, ben voilà comment les choses doivent se passer parce que telle est notre grille de lecture ». Alors essayons d'avancer dans notre texte et de, en même temps de faire un peu une synthèse des choses que nous avons vues concernant Samson, et ce soir particulièrement concernant sa chute. Beaucoup considèrent la chute de Samson comme quelque chose qui ne pouvait manquer d'arriver, vu son comportement tout au long des années, un comportement qui révèle la nature profonde de cet homme. Je vais vous dire que je refuse cette interprétation. Certes, Samson est tombé dans la 20e année de son ministère, mais jusque-là, Samson s'était montré courageux, consacré à son œuvre et intelligent. Et je vous propose plutôt cette analyse, de considérer tout d'abord que ce ne sont pas les Philistins qui ont eu raison de Samson, mais plutôt une compatriote. Les arguments sont là pour nous montrer que Delila était certainement juive. Ce qui nous rappelle aussi qu'au chapitre 15 du livre des Juges, les hommes de la tribu de Juda avaient déjà une première fois vendu Samson aux Philistins, comme Jésus lui-même a été trahi et vendu par les siens aux Romains. Ce n'est pas non plus la force ou les liens qui ont raison de Samson. Mais ce qui a eu raison de Samson, c'est une certaine suffisance, une certaine arrogance qui se sont retournées contre lui. Autrement dit, les raisons de la chute de Samson ne sont pas trouvées à l'extérieur, mais elles sont à trouver en lui-même. Quelque chose s'est produit en Samson qui a fragilisé Samson et qui l'a exposé à la chute. Alors, il est important de garder une perspective. Les quatre chapitres de l'histoire de Samson forment un bloc. On ne peut pas simplement considérer un passage pour parler de sa chute, mais il y a toute une histoire qui est là. Et l'un des passages importants pour comprendre l'évolution de Samson, c'est quelques lignes que nous avions abordées le mois dernier, au tout début du chapitre 16, cette histoire de Samson qui descend à Gaza pour y arracher les portes. Mais ce récit, nous l'avons vu, est étrange. Et puis il nous laisse inconfortable, dans une position inconfortable. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette histoire de Samson qui va loger chez une prostituée. Ce passage nous met mal à l'aise. Et il témoigne d'un changement, d'une amorce de changement dans le cœur de Samson. Mais il faut le mettre en perspective. Une perspective temporelle. Entre la fin du chapitre 15 et le début du chapitre 16, 20 ans se sont écoulés. Alors, pour nous, ce n'est le temps que de reprendre son souffle. Mais 20 ans dans la vie d'un homme, c'est long. C'est long. Surtout quand on a été mis à part par le Seigneur, équipé d'une manière toute particulière pour accomplir un ministère et que peu de choses se passent. On peut se demander ce qu'a pu se passer pendant ces 20 ans. Nous n'en savons pas, nous ne chercherons pas à extrapoler, bien sûr. Mais en tout cas, rien de foncièrement important. Il n'y a pas eu de grande évolution. Et au bout de ces 20 ans, donc au début du chapitre 16, nous retrouvons notre Samson qui part pour Gaza. C'est comme si, au bout de 20 ans, il va tenter une nouvelle action héroïque. Je dirais presque tenter le tout pour le tout. Parce qu'il ne choisit pas un village, il choisit la ville la plus fortifiée des Philistins. Une citadelle imprenable. Et il a pour but de faire quelque chose d'absolument incroyable, aller arracher les portes de cette ville pour les transporter plus loin sur une colline. Quelle idée ! À la fois un défi lancé aux Philistins, il vient au cœur même de leur royaume, dans la ville la plus fortifiée pour en arracher les portes. C'est un défi. Mais c'est aussi comme une provocation à l'égard d'Israël, comme pour pousser Israël à réagir. Il veut faire de Gaza, je l'avais dit, rappelez-vous, un espèce de nouveau Jéricho. Les murailles étaient tombées à Jéricho, Samson arrache les portes de Gaza, comme pour dire, voilà, la citadelle est ouverte. Malheureusement, nous le voyons, rien ne se passe. Aucune armée venant d'Israël ne se lève. Rien ne bouge. Et je me suis posé la question alors, si ce passage n'est pas là pour justement nous attirer notre attention sur un changement dans le cœur de Samson. Au bout de 20 ans, comme si Samson avait voulu accélérer, précipiter les choses par une action extraordinaire. Mais en même temps, n'ayant pas été suivi, je me pose la question sur les conséquences dans le cœur de Samson à l'égard d'Israël. Lui, après avoir tout tenté, rien ne se passe. Au risque maintenant de se désintéresser de son appel et de sa vocation. Ce qui m'amène à considérer d'ailleurs juste après le verset 4. Sitôt après Hébron, il nous est dit qu'il va s'intéresser à lui-même. Il va aimer une femme. Et c'est là que nous soupçonnons donc un changement d'attitude dans le cœur de Samson. Mais mes frères et sœurs, ça nous parle aussi. Parce que quand on est engagé dans l'œuvre de Dieu, après des années de lutte, et que l'on ne voit pas les choses bouger comme on le voudrait, la tentation peut venir de vouloir accélérer, de vouloir précipiter, ou vouloir engager une action héroïque. Une campagne d'une envergure nouvelle. Et si ça ne suit pas par derrière, alors les blessures sont profondes. Et on se dit, j'ai tout fait. J'ai tout essayé, j'ai tout tenté. J'ai tout osé. Laissons tomber. Vaut mieux s'occuper de soi-même. Et je me pose la question de savoir si ce n'est pas arrivé à Samson comme c'est arrivé à bien d'autres serviteurs aussi. Mais quelque chose m'interpelle aussi dans ce passage de Juges 16, versets 1 à 3, c'est la présence et la participation du Saint-Esprit. Pour la première fois, nous ne trouvons dans ce passage aucune référence quant à l'Esprit. Jusque-là, Samson avait été soit conduit, soit saisi par le Saint-Esprit. Je vous rappelle que la première fois qu'il descend chez les Philistins pour aller trouver sa femme à Timna, c'est d'après un ordre du Seigneur. C'est le Seigneur, ça venait du Seigneur. Et à bien d'autres moments, lorsqu'il va combattre les Philistins, c'est saisi par le Saint-Esprit qu'il le fait. Mais là, lorsqu'il descend à Gaza, lorsqu'il arrache les portes de la ville, nulle mention du Saint-Esprit. Comme si finalement, Samson aurait entrepris là une action personnelle, une action hasardeuse. Comme s'il avait manifesté une certaine impatience, utilisé sa force sans avoir consulté Dieu. Oh, savez-vous que bien des ministères équipés d'une manière extraordinaire par le Seigneur ont pu un jour ou l'autre utiliser la puissance qui était la leur sans avoir forcément l'aval du Saint-Esprit? C'est un danger, bien sûr. Au bout du compte, cette action de Gaza, c'est une action commando, mais c'est un coup d'éclat solitaire sans lendemain. Par contre, elle est annonciateur de beaucoup de changements dans le cœur de Samson. Que constatons-nous? Samson est prêt maintenant à utiliser sa force sans direction certaine de Dieu. Il se dit, je peux tout entreprendre. Ben, pensez donc, il est descendu à Gaza, il a arraché les portes. Qu'est-ce qui peut lui résister maintenant? Aucune armée, aucune porte, aucune ville ne peut résister à cet homme. Un risque d'arrogance? Combien d'églises dans le monde, de frères, de sœurs ont pleuré un jour sur des hommes de Dieu qui pensaient que rien ne leur résistait? Ça concerne particulièrement nos milieux de Pentecôte et charismatiques, où nous avons côtoyé, vu de tels hommes. Je peux arracher les villes, les ports d'une ville. Mais en faisant cela, ils se sont exposés. Une arrogance a commencé à naître dans leur cœur. C'est là un grave danger. Ce qui nous gêne aussi dans cette histoire de Gaza, c'est que Samson y a exposé son Naziréa. Je vous l'ai dit, c'est vrai, rien ne prouve absolument que Samson ait eu des relations sexuelles avec la prostituée de Gaza. Plusieurs des commentaires disent que l'expression là pour parler de la prostituée de Gaza fait référence en fait à je vais le dire d'une manière familière, pardonnez-moi, à une auberge de passe. Voilà, c'était un lieu mal famé dans les faubourgs de la ville, mais qui était stratégiquement bien placé parce que sur les murailles. Mais je vous l'ai dit, quand la Bible veut parler d'adultère ou de fornication, elle le fait. Elle le dit pour David. Elle le dit pour Judas et Tamar. Elle ne dit rien pour Samson. Peut-on accorder à Samson présomption d'innocence? La Bible ne disant rien de plus, accordons-lui cela. Mais malgré tout, n'était-ce pas là s'engager dans des relations potentiellement dangereuses? Est-ce que véritablement le fait d'arracher ses portes justifiait le fait qu'il descende dans un tel endroit? Vous savez, côtoyer de si près le péché, même pour des raisons de ministère, représente un véritable danger. Et là, encore une fois, nous avons tant de récits de chrétiens, d'hommes de Dieu, qui se sont habitués à côtoyer le péché de trop près, jusqu'à exposer leur ministère. Nous avons donc dans ce court récit de trois versets du début du Juge 16, la genèse de la chute de Samson, qui se confirme juste après avec Delila. Et trois traits caractérisent cette chute: l'arrogance, l'exposition au péché et le repli sur soi. Nous quittons donc Gaza et nous retrouvons maintenant Samson dans la vallée de Sorek, dans les bras de Delila. Encore une fois, accordons-lui la présomption d'innocence. Rien ne dit dans le texte qu'il se soit engagé dans des relations impures avec cette femme. Rien n'est dit dans le texte concernant ça. Mais si nous arrêtons maintenant quelques instants sur Samson, je vois dans cette vallée de Sorek, dans cette maison de Delila, un homme fatigué, un homme usé. Samson, dans les bras de Delila, ce n'est même plus le Samson de la ville de Gaza qui, en plein milieu de la nuit, va se lever. Là, dans les bras de Delila, on le trouve sans force, sans réaction. Il est vraiment comme mené, manipulé par cette femme. Pour moi, il est conscient qu'il est manipulé, mais il n'a plus envie de réagir. Il n'a plus envie de réagir. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'est cassé dans cet homme, une fatigue. De quoi est-il fatigué? Des combats menés contre les Philistins? Non. Ça ne le dérangeait pas. Je pense que surtout la fatigue venait du peu d'intérêt que ses contemporains et que ses concitoyens lui avaient montré. Je me suis quand même étonné, tout au long des juges de ce livre, nous voyons des hommes se lever, et des femmes aussi, Déborah, les uns après les autres, Othniel, Ehud, Barak, Gédéon et même Jephté. Nous les voyons se lever les uns après les autres, et à chaque fois, Israël les suit. Enfin, peut-être pas tout Israël, mais une certaine tribu. Quant à Samson, personne. Pourtant, jusqu'à présent, ils n'avaient jamais eu un tel général à leur tête. Imaginez, un homme comme Samson. Mais un tel homme, on a envie de le suivre. Un général qui vous arrache les portes d'une ville. Un général qui prend une mâchoire d'homme et qui va, une mâchoire d'âne, pardon, qui va massacrer 1000 hommes. Mais ça donne envie de le suivre. Voilà un guerrier, voilà un conquérant, voilà un meneur d'hommes. Pourtant, personne ne le suit. Jusqu'au bout, Samson reste seul. Ça nous montre à quel point Israël était vraiment tombé bien bas. Sans force, sans réaction, acceptant le joug des Philistins depuis 40 ans, et alors que Dieu leur suscite, qu'est-ce que je veux dire, presque un super-héros pour les conduire au combat, personne ne réagit. Samson, vas-y, débrouille-toi, fais le boulot. Mais au bout du compte, ça a fatigué cet homme. Non pas dans ses muscles, mais dans son cœur. Et donc, j'ai l'impression que vient un moment où Samson préfère s'enfermer dans ses sentiments. Il préfère à un moment vivre pour lui, je ne veux plus rien savoir du reste. Même s'il est évident qu'il est manipulé par cette femme. Alors oui, Samson va finir par s'endormir sous les genoux de Delila, qui n'aura plus qu'à le raser afin de récupérer son argent. Et oui, la chute de Samson est indéniable. Oui, le péché de Samson est là, mais encore une fois, pas forcément où on l'attend. Je me dis, à ce moment-là, Samson avait besoin d'aimer. Et peut-être aussi avait-il besoin d'être aimé. Parce que quand on est seul comme ça pendant des années à servir, il y a un moment, on a besoin que quelqu'un s'occupe de soi. Et j'ai l'impression que c'est ce que Samson a eu besoin. Mais alors, où est la faute de Samson ? La Bible ne nous permet pas de conclure que la faute de Samson soit de nature sexuelle. Et je vais essayer de la chercher ailleurs. Et tout d'abord, réfléchir quant au sentiment de Samson. Samson a aimé une femme. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Même pour un serviteur de Dieu, même pour un Samson, même pour un juge. Le problème, c'est de savoir qui il a aimé. Et que l'on soit serviteur de Dieu avec un ministère extraordinaire ou que l'on soit simple disciple de Christ, nous devons veiller à nos sentiments et à qui nous donnons nos sentiments. Or, dans le cas de Samson, le moindre chose à dire, c'est qu'il était vraiment très mal placé. Samson n'a vraiment pas aimé la bonne personne. Qui était cette Delila dans l'imagerie populaire? C'est une prostituée, c'est une intrigante, c'est une femme sensuelle. En effet, Elle vit seule. Dans la maison de Delila, vous ne trouvez pas d'homme. Vous ne trouvez pas de père. Vous ne trouvez pas de frère aîné. Et même si elle n'avait pas de père ou de frère aîné, il y aurait eu un oncle ou un cousin. Parce qu'on imaginait mal à l'époque qu'une femme juive puisse habiter seule chez elle, sinon que parce qu'elle avait une vie légère. Il est donc difficile de penser que Delila était une femme tout à fait ordinaire. En plus, c'est une femme vénale. Il faut dire que les Philistins y ont mis le paquet. 1100 cycles d'argent fois 5. Chaque prince des Philistins, 5 princes des Philistins qui amènent 1100 cycles d'argent. Alors 1100 cycles d'argent, je traduis, ça donne 82 kilos d'argent métal. Soit au cours actuel 62 000 euros, mais il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Et 82 kilos d'argent métal à l'époque, c'est une fortune colossale. La fortune qu'étaient prêts à payer les Philistins pour se débarrasser de Samson. Je ne sais pas quels étaient les sentiments de Delila pour Samson, mais en tout cas, les sentiments pour l'argent métal étaient plus forts que ceux pour Samson. Qu'est-ce que je veux dire dans cette histoire, dans ces sentiments ? C'est que Samson, comment un homme comme Samson, un Naziréen, a-t-il fini par aimer une femme comme Delila ? Il y avait les warnings, tout était code rouge pour lui dire « ne te confie pas dans cette femme ! Ne te confie pas dans cette femme !» Comment a-t-il fait pour en arriver là ? Mais j'en reviens à ces fameuses liaisons dangereuses dont je parlais la dernière fois. Alors oui, Dieu le conduit vers une femme philistine et on lui accorde ceci, c'est le Seigneur qui l'a conduit, ça venait de Dieu. Mais quelque part, Samson va s'habituer à côtoyer, je veux dire, des femmes limites. Même si ça reste pur. Et après, il y aura cette femme prostituée de Gaza. On n'en sait pas plus, mais enfin, Samson, qu'est-ce que tu faisais là ? Et au fur et à mesure, il s'habitue. C'est vrai que les mauvaises fréquentations corrompent les mœurs. Et au fur et à mesure de fréquentations dont il finissait par s'habituer, eh bien, il s'est laissé emberlificoté, jusqu'à un point où il n'arrivait plus à s'en sortir. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui ont été vues. Ne côtoyons pas le péché, fuyons-le. Fuyons-le. Je voudrais aussi peut-être trouver ailleurs, chercher encore ailleurs la raison de la faute de Samson, la question de son secret. Je vous rappelle que si vous êtes, mais vous ne l'êtes pas, je le sais, primo lecteur, c'est-à-dire si c'est la première fois que vous lisez l'histoire de Samson, jusque-là, jusqu'au passage que nous avons lu, vous ne savez pas d'où vient la force de Samson. Vous pourrez relire l'histoire. C'est à cause de Delila que nous savons que la force de Samson venait de Dieu, bien sûr, mais de ses cheveux. Parce que jamais l'ange ne dit à la maman de Samson qu'une force serait manifestée à cause de ses cheveux. C'est avec Delila que nous l'apprenons. Elle lui demande son secret, le secret de sa grande force. Mais une question. En quoi était-ce un secret ? Et en quoi cela devait-il rester un secret ? Y a-t-il un endroit dans le texte des juges où il est dit « Samson, tu ne diras jamais à personne d'où vient ta force, tu ne diras jamais que ça vient de tes cheveux ». Vous le trouvez quelque part ? Absolument pas. D'autant plus que les Hébreux étaient habitués à voir des Naziréens. Et ils savaient quelle était la valeur de la chevelure d'un Naziréen. Et ils savaient donc que Samson était un Naziréen consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Et on imagine la taille de la chevelure de Samson, cette tresse imposante. Je ne sais pas, pour un homme en plus, qui avait au moins dans les 40, 45 ans, sinon plus, vous imaginez la taille de la chevelure de Samson. Tout le monde se doutait qu'il y avait quelque chose. En tout cas, cette chevelure, c'était le témoignage de sa consécration à Dieu. Mais jamais nous trouvons dans un passage qui nous dit « Samson, tu ne diras jamais rien au sujet de cette chevelure ». Tous les gens savaient qu'il y avait quelque chose, un signe de Dieu sur la vie de cet homme à travers ses cheveux. Je voudrais vous dire aussi que Dieu ne s'est pas retiré de Samson parce qu'il a livré son secret. Mais il s'est retiré de Samson parce que ses cheveux ont été rasés. D'ailleurs, il a livré son secret un jour et il a été rasé au moins un jour plus tard. Parce que entre le temps où Samson donne à Delila son secret et au moment où elle le rase, elle a eu le temps d'aller voir les Philistins et de leur dire « Montez chez moi ». Donc, il y a eu ce délai. Mais ce qui est clair quand même dans cette histoire où Samson va finir par ouvrir son cœur concernant ce rasoir et ses cheveux, c'est que malgré tout, Samson a agi avec légèreté et avec négligence quant à ce que Dieu lui avait confié. Vous êtes d'accord avec moi, l'expression qui nous viendra alors, c'est qu'il a confié ses perles aux pourceaux. Il a confié ce qui était saint à une femme débauchée. Qu'est-ce que vous voulez qu'une Delila ait comme respect pour une chevelure de Naziréen ? Et Samson a été trahi. Autre chose, Samson avait pris l'habitude de s'en sortir à tous les coups. C'est ce qu'il dit, hein ? Je m'en dégagerai, comme les autres fois, pas de problème. Oh ! Et une arrogance s'était installée chez lui, une arrogance spirituelle, ce fameux orgueil qui précède la chute. Il pensait pouvoir tout entreprendre, sa force l'en sortirait. Et c'est là que nous comprenons qu'il y a eu quelque chose qui a basculé chez Samson. Sa confiance n'était plus en Dieu, sa confiance était en sa force. C'est aussi un danger qui peut guetter de nombreux chrétiens et de nombreux serviteurs de Dieu. Samson a oublié que la puissance n'était pas tant dans le don que dans la relation avec celui qui donne. Et cette arrogance l'ont conduit à l'aveuglement. Spirituel puis physique. À mon sens, c'est là que le véritable péché de Samson. Il a négligé le don de Dieu. Il a négligé sa relation avec Dieu. Et quelque part, il a été profane avec ce que le Seigneur lui avait confié. Pour résumer les fautes de Samson, je dirais qu'elles se situent donc dans la légèreté avec laquelle il traita les caprices de Delila. Il préféra se bercer d'illusions, écouter ses sentiments, que de réagir en fuyant. Il a négligé le don qui était le sien et il a laissé Delila toucher à ce qui était saint et consacré à Dieu dans sa vie. Et enfin, il a laissé l'arrogance grandir dans son cœur. Il s'appuyait sur sa force et non plus sur Dieu. Il avait davantage foi en ses capacités qu'en Dieu. Je prendrai le temps, si vous me le permettez. Je préférerais, comme j'ai encore plusieurs notes à voir sur la chute de Samson, je prendrai le temps de continuer une prochaine fois pour ne pas précipiter les choses. Mais nous avons vu ce soir des points importants qui ont conduit cet homme Samson à tomber. Et ces choses ne sont pas venues de l'extérieur, elles sont venues de son cœur. Combien nous devons veiller ? Veiller particulièrement après des années de service. Et nous fortifier à tous égards. Parce que la précipitation peut nous emporter. La négligence peut nous saisir et alors nous pouvons tout perdre. J'aime à me rappeler, et je voudrais finir ce soir avec ça, avec ce verset de l'épître de Jude au verset 24, J'aime à me rappeler cette parole de l'apôtre qui dit « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, force, majesté et puissance. » Jude 24. Dieu a la puissance de nous garder. Il a la puissance de nous garder. Mais combien nous devons, nous aussi, veiller sur nous-mêmes. Ne pas nous laisser emporter par nos sentiments. Nous sommes dans un pays où le découragement peut nous saisir. Et le découragement peut nous amener à nous replier sur soi. Je ne veux plus en entendre parler. Personne ne me comprend. Ils ne saisissent pas. Dieu m'a confié quelque chose de fort, quelque chose de puissant. On voulait aller prendre les ports de la ville. Personne ne nous a suivis maintenant. Je m'en vais dans les bras de Delilah. Ésaïe a dit concernant le serviteur de Dieu, le Messie, il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Jésus était seul à la croix. Quel était le bilan de l'œuvre de Jésus à Golgotha? Combien était-il là? Nous savons qu'il a tout supporté parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense, sur la joie qui lui était réservée dans les cieux. Et il savait que l'œuvre se ferait. Mes frères et sœurs, souvenons-nous alors de Samson. Quelle que soit la puissance que nous avons, ce n'est pas la puissance qui nous sauvera. C'est notre communion avec Dieu. C'est notre relation avec le Seigneur. Seigneur Jésus, Samson évoque tellement pour nous des choses que nous avons rencontrées. Mais cela, Seigneur, nous met en garde quant à nous-mêmes. Nous sommes sensibles, Seigneur, à cet homme qui a été mis à part, consacré à toi dès le ventre de sa mère. Nous sommes, Seigneur, saisis aussi par cet homme qui était rempli de force, de puissance, mon Dieu. Mais voilà qu'un jour, il a perdu le sens de sa mission. Voilà qu'un jour, il s'est épuisé à vouloir agir tout seul. Voilà qu'un jour, il s'est replié sur lui-même. Et Seigneur, ces choses, nous les avons vues tant et tant de fois autour de nous. Seigneur, que l'histoire de Samson soit gravée dans nos cœurs. Seigneur, merci. Merci de nous garder de toute chute. Merci de nous garder pour qu'un jour nous puissions paraître devant ton trône saint et irrépréhensible. Ô Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Parce que si un homme comme Samson a pu un jour basculer, nous pouvons nous aussi basculer. Nous pouvons aussi un jour connaître cette fatigue. Nous pouvons aussi un jour être, Seigneur, saisis par un désir de précipitation et ensuite connaître le découragement, l'abattement qui nous éloignerait de toi et nous pousserait dans les bras de Delilah. Seigneur, garde-nous de cela. Jésus, fortifie-nous à tous égards. Seigneur, merci de nous garder vigilants en toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.